Voilà. Donc, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 8. Ça a l'air si routinier, parfois, la parole de Dieu, quand on se voit tous les dimanches. Mais moi, je me rends compte, par exemple, j'ai été couvert d'arthrose. Je me rends compte que l'autorité pour la faire partir, ça a été de passer des heures à lire ma Bible. L'autorité sur ce que j'avais, c'était de passer, de me relever la nuit et de lire la Bible. Et de prier. Et puis c'est parti. Il y a des attaques qui n'ont pas de signification autre que spirituelle. Et il n'y a pas de réponse aux attaques spirituelles autre que des contre-attaques spirituelles. Quand le Seigneur donne cette promesse, vous recevrez Saint-Esprit, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit, survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est d'abord pas seulement une promesse, c'est un ordre. C'est un ordre de recevoir le Saint-Esprit, c'est de l'accueillir. C'est de l'accueillir. Et vous savez bien que dans Jean, dans l'évangile de Jean, Jésus l'avait déjà donné cet ordre-là. Vous savez, ne prenons pas toujours Jésus sur le plan de l'amour et de l'amitié, prenons-le sur le plan de l'autorité. Le plan de l'autorité, c'est notre autorité, Jésus. Et il dit, recevez le Saint-Esprit dans Jean chapitre 20, verset 22. C'est un ordre. Ce n'est pas seulement quelque chose de facultatif. Pour les disciples, c'est un ordre, c'est un acte de soumission de recevoir le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas une amélioration de ce que nous sommes. Ce n'est pas un perfectionnement de ce que nous sommes. Recevoir le Saint-Esprit, c'est déblayer la vieille nature, déblayer tout ce qui vient d'avant par les parents et évidemment par Adam et Ève, pour être habité de Dieu. Non plus habité de la révolte d'Adam et Ève, non plus, et de toutes ces conséquences qui sont nombreuses, mais c'est d'être habité de Dieu et de toutes les conséquences de la présence de Dieu. Et ça, c'est extrêmement important. Voici, je fais toutes choses nouvelles, dit Dieu. Donc, Paul l'a dit dans 2 Corinthiens, toutes choses anciennes sont passées en Christ, toutes choses sont nouvelles. Bon, ça paraît un peu théorique tout ça, mais on va regarder. On va regarder un peu de plus près. Donc, vous avez vu dans Jean, chapitre 21, verset 22, recevez le Saint-Esprit. Regardons maintenant dans Matthieu, au chapitre 3, verset 11.
Ça va être droit.
Matthieu, chapitre 3, verset 11. Ce sont des passages extrêmement importants. Bon, vous savez, un chrétien est appelé à prendre du temps dans la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu. Un chrétien est appelé à laisser Dieu prendre toute la place. S'il ne le fait pas, sa vie dépérit, sa vie spirituelle dépérit. Et il s'expose à des attaques assez fortes du malin, assez fortes, assez redoutables. Il faut faire attention. Nous ne sommes pas dans un grand fleuve sentimental. Quand on est dans la foi chrétienne, on rentre dans un combat. Et Matthieu chapitre 3, verset 11. Je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, a dit Jean-Baptiste, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Donc je ne suis pas digne d'être son esclave, son serviteur. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc quand vous regardez dans Malachie au chapitre 3, versets 1 et 2, et 4, versets 1 et 2, vous voyez que Dieu arrive, le Christ arrivera, comme un purificateur. Et la vision que Jésus a manifestée à Pierre, Jacques et Jean, cette manifestation où il était transfiguré, où il était plus blanc que la potasse du foulon et que le bronze en fusion, ce sont des visions que Ézéchiel avait eues, n'est-ce pas, et que Jean a eues dans l'Apocalypse, et que Daniel a eues. Donc ce sont des visions du Christ, de réel Christ, le Christ éternel de gloire, qui avait laissé cette gloire de côté pour venir comme un petit bébé à Nazareth, à Bethléem, puis Nazareth, et puis comme fils du charpentier, puis prédicateur. Mais sa réelle condition en gloire s'est manifestée. Et donc, il a une autorité très grande, au verset 12, c'est de purifier l'humanité, de purifier tout, et de garder les fils de Lévi, de garder les descendants de la Bible, les descendants d'Israël, autant que je sache, on en fait partie, par Jésus, par l'onction du Saint-Esprit. On est gardé, on n'est pas brûlé, mais tout le reste est brûlé, tout le reste est jeté. Et nous, pour ceux qui resteront et qui seront dignes parce que nous aurons accepté Jésus et l'autorité de son Saint-Esprit, il est certain que nous devons être baptisés, c'est-à-dire la vieille vie est morte, l'empire du péché sur nous n'a plus autorité et l'empire de Dieu est entré dans nos vies. Nous sommes transportés dans le royaume de Christ. Voilà le baptême du Saint-Esprit. Je l'ai déjà expliqué d'autres dimanches, bien évidemment. Alors, dans Luc chapitre 11, dans Luc chapitre 11, versets 9 à 13, Luc chapitre 11, versets 9 à 13, Luc chapitre 11, versets 9 à 13. Et moi je vous dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Quiconque demande, reçoit, celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. On va voir de quoi il s'agit, l'objet de la demande, hein? L'objet de l'insistance dans la demande aussi. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils? S'il lui demande du pain, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, regardez comment Dieu voit la nature humaine, notre nature, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, demandez et l'on vous donnera, c'est à propos de la vie nouvelle en Christ. C'est un petit peu comme la Samaritaine au bord du puits. Si tu me demandais de mon eau, tu n'aurais plus soif. C'est pas d'autre chose. Oh, j'ai besoin d'une autre voiture, j'ai besoin de ci. C'est évidemment, pour l'enfant de Dieu, on peut demander d'être assisté dans ses besoins quotidiens. Mais essentiellement, au point de départ, pour être enfant de Dieu, c'est cette demande-là. Il faut que notre cœur désire vraiment un basculement, ce baptême dans un esprit, et que Dieu l'opère dans sa grâce. Et comme il est un père qui n'est pas méchant et qui répond à la demande, si nous avons un cœur sincère et vrai, et que nous demandons la vie nouvelle, évidemment, il ne va pas la refuser. Jésus l'a dit, je ne rejette pas celui qui vient à moi. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la colonie de Plymouth, il y en avait quand même qui se sont fait passer pour des enfants de Dieu, et qui torpillaient la communauté, et les responsables. Et donc pratiquement, c'est pas que tous avaient l'Esprit Saint, or ils paraissaient avoir l'Esprit Saint. Donc, il y a un discernement, on voit les fruits. Les fruits dans le don du Saint-Esprit sont quand même le réel amour dans la droiture et la justice et la paix. Romains 14, 17. Donc, demander, c'est un ordre. Nous avons vu tout à l'heure dans Jean 19, recevez, mettez-vous en accueil de recevoir. Eh bien, c'est la même chose, demander. Ensuite, il faut. Jean chapitre 3, verset 6 à 8. Jean chapitre 6, Jean chapitre 3, verset 6 à 8. Ce qui est, Jean chapitre 3, verset 6 à 8. Ce qui est né de la chair, donc qui est humain, qui est marqué par le péché d'Adam et Ève, ce qui est né de la chair est chair. Le mot chair ici c'est sarx, c'est humain. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Regardez le mot « il faut ». C'est incontournable. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il y a de ça 8 jours, j'étais dans le champ, à 4 pattes, en train de nettoyer les légumes. J'étais tout seul. Il était peut-être, je ne sais pas quelle heure, moi, 10h30 du matin, mais j'y étais déjà depuis 7h. Et tout d'un coup, j'entends du bruit et je regarde et je vois tous les blés, l'herbe dans le champ. C'est comme s'il passait un troupeau de buffles qui piétinait tout. Et je voyais rien. Et il passait un vent glacial, un courant d'air glacial, très puissant, à 8-10 mètres de moi, en travers des champs, et je le voyais, il suivait tout le long. Donc il y avait, vous savez qu'à 300 km, 200, 300 km au-dessus, il y a les jet storms, il y en a 5, des anneaux de vent qui circulent à 400 km/h à l'entour de la Terre et qui conditionnent beaucoup le climat d'aujourd'hui. Bon, depuis la bombe d'Hiroshima, Nagasaki, leur place a changé totalement, ils sont perturbés et ça provoque des troubles climatiques importants. Mais pratiquement, et puis il n'y a pas eu que ces deux-là, après on en a fait péter encore plus de 50 hein, dans l'air. Donc on a perturbé la machine que Dieu avait mis en ordre et on en paye un peu les pots cassés. Maintenant ce qu'il y a, il faut. Moi je vois que ce vent était puissant, il passait, ça faisait même du bruit. Et j'étais là et j'ai dit, Seigneur, j'ai compris que dans ton verset tu dis, on ne sait pas d'où il vient et où il va. Et on peut comprendre quand Élie était dans la montagne, au mont Sinaï, que le vent arrachait la montagne, arrachait des pans de montagne, et que le vent, tout d'un coup, c'était une brise douce et légère. Et le Seigneur était là, pour Moïse. Donc, la puissance de Dieu se manifeste un jour pour que nous comprenions que c'est de son autorité que nous devenons son enfant. On ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on a envie. On peut le désirer, mais envie. J'ai besoin d'aller au cabinet, j'ai envie. J'ai envie de manger, etc. Ce n'est pas au niveau des envies. C'est de son autorité que Dieu a décidé tel jour, je fais ta vie nouvelle. Ça dépasse tout à fait le domaine de l'humain, de l'envie. C'est du royaume des cieux que vient ce décret de nous sauver. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, par autorité, Dieu, à un moment donné, change quelqu'un. Et il faut. Alors, ça, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que il n'est pas possible de le faire par soi-même. Prenons les noces de Cana dans Jean chapitre 2. Dans Jean chapitre 2, à un moment donné, il y a plusieurs noces dans ce village de Cana, et tout d'un coup, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et c'est Marie qui vient dire à Jésus, le vin ayant manqué, au chapitre 2, verset 3, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Il n'est plus possible de continuer à se réjouir dans la noce, ça va devenir une bagarre, ça va devenir l'amertume, ça va devenir les tourments, les reproches, il y a des gens pas contents qui vont commencer à grogner, vous savez, c'est comme ça, une foule, elle a besoin de sa sucette, hein? Au restaurant, à maman faisait comme ça, mangeait comme ça, papa faisait comme ça, le cuistot a parfois une grosse tête, moi j'ai vu un cuistot, j'étais en dehors du restaurant, j'étais là où il reçoit les coups de téléphone, il m'a dit « Ras-le-bol, ras-le-bol !» Après que la personne avait raccroché, j'en ai marre, moi, de toute leur fantaisie. Maman faisait comme si, papa faisait comme ça, et on est le chien. Et c'était vraiment, le restaurateur était le chien. Mais les autres, il leur fallait un sourire, et ils payaient, ils avaient droit. Voilà. Ça, c'est l'être humain. C'est l'être humain qui fait comme ça avec Dieu. Il pense qu'il a des droits avec Dieu. Comme avec le restaurateur. Eh bien, finalement, ici, on voit que l'humanité n'a plus de vin, n'a plus rien pour se payer la gaieté à laquelle elle veut, elle prétend. Donc, la tristesse vient sur l'humanité et c'est Jésus qui redonne un sens à l'existence. C'est Jésus qui redonne un sens à l'humanité. Par sa présence, pourquoi ? Parce qu'il fait toutes choses nouvelles. Et donc, Jésus, bien sûr, a fait son premier miracle là, à Cana, chapitre 2, verset 11. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire. Ses disciples crurent en lui. Oh, quelle gloire, les amis! Mais quelle gloire! Faire du pinard, mais ça, il y en a partout sur la terre. C'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. C'est que dans Ésaïe au chapitre 25, vous avez réellement la manifestation de la gloire de Jésus, où le voile de la mort est ôté sur toutes les nations, et où on boit du vin vieux, des mets succulents, etc. Le repas autour de Jésus, décrit en Ésaïe 25, est préfiguré dans la noce de Cana. Et donc, la gloire de Jésus, la gloire de Jésus sur l'humanité, c'est une œuvre qui vient de Jésus, de Dieu. Parce qu'il est tout-puissant et qu'il veut redonner la joie et la paix à l'humanité. Enfin, au moins à ceux qui sont sauvés. Et ce qu'il y a, c'est que pour être sauvé et dans la joie, il faut une modification de la trajectoire de la vie, des composantes du caractère, des composantes de la personnalité de ces personnes-là. Elles ne peuvent pas disposer de ce vin-là sans avoir été transformées. Qu'est-ce que c'est de donner un verre, un bon verre de vin, à quelqu'un qui le boit d'un seul coup, hein, qui ne sait pas le goûter, mais qui s'achète de la piquette à 1,5 € dans un magasin, un grand magasin en France, et puis qui boit de la piquette, s'il ne sait pas déguster et apprécier un bon vin. Eh bien, c'est ça l'image entre l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme spirituel sait apprécier les bonnes choses que Dieu lui donne. Et ce vin, c'est la disposition du Saint-Esprit dans nos vies, c'est un bien messianique. Voilà. Donc, c'était la première chose que je voulais vous dire. Maintenant, regardons. Le moteur même de la vie de Jésus, c'est quoi? Mais c'est le Saint-Esprit. Avant de regarder à ce que le Saint-Esprit peut faire dans nos vies, regardons ce qu'il a fait dans la vie de Jésus. Dans Matthieu chapitre 4. Dans Matthieu chapitre 4, évidemment, nous allons voir que ça commence par barder dans la vie de Jésus. Hein? Et bien sûr que le Saint-Esprit est venu sur Marie et qu'elle elle a conçu de Jésus, le Fils de Dieu, et puis que Jésus a grandi en sagesse, en stature, etc. Bien sûr qu'il a déjà parlé dans le temple aux anciens, mais tout d'un coup, c'est quand il va dans le Jourdain qu'est manifesté par les paroles de Jean-Baptiste, les paroles de Dieu qui viennent d'Ésaïe, chapitre 42, « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », et par la présence de la colombe, qu'est manifestée l'authentique présence du Saint-Esprit en Jésus. Jésus avait déjà le Saint-Esprit, mais il fallait que certains l'entendent, le voient, que ce soit désigné. Alors, chapitre 4, « Jésus fut emmené par l'Esprit-Saint dans le désert pour être tenté par le diable ». Donc, l'Esprit-Saint, c'est pas pour avoir un beau lit et se coucher dedans, le lit de la béatitude, hein, de la plénitude du Saint-Esprit, non. On a, quand les chrétiens recevront quelque chose, le jour qu'ils sont convertis, c'est les arts, c'est le gage. La plénitude est après. Bon, il y en a trop qui prêcheraient. Faux don, illusoire. Et ici, vous voyez que Jésus a commencé par la bagarre. Eh bien, il faut savoir que quelqu'un qui devient chrétien commence souvent par la bagarre, avec son milieu. Souvent par les difficultés. Souvent par les épreuves. C'est déjà un test. C'est déjà un test, souvent. Parce que l'ennemi attaque. L'ennemi attaque quelqu'un qui est porteur de l'esprit. C'est déjà un test qui révèle quelque chose. Je ne dis pas à tout coup que c'est le bon test, mais en tout cas, ça se passe comme ça, souvent. Quand il n'y a pas eu de confrontation avec l'ennemi et d'hostilité de l'ennemi, je me pose réellement la question si c'est une conversion. Parce que je ne le vois pas dans la Bible. Au verset 2, « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Voilà que Jésus prend l'arme de la prière et du jeûne. » Et comprenez bien, quand je vous ai parlé tout à l'heure de la colonie de Plymouth, ben, ils ont compris, ils avaient compris depuis longtemps. Vous savez, quand ils sont partis pour leur premier voyage, ils avaient payé le bateau, il y a eu un ordre des autorités anglaises, et le bateau, demi-tour. Ils avaient dépensé tout leur argent pour le voyage, pour partir aux États-Unis, et ça avait, ils avaient tout perdu. Il a fallu encore retravailler, économiser, repayer une deuxième fois le voyage. Et puis quand ils ont été dans le bateau, il y avait des tordus, qui étaient des bandits, des violeurs et tout ça, des gens qui buvaient, dans le bateau. Et ça, ça n'avait pas été convenu avec. Donc au lieu d'être rampés pour partir là-bas, c'était déjà, sur le bateau, l'enfer. Plus des tempêtes, puis ils arrivent là-bas, c'était l'hiver. Il y a eu des morts. Donc les épreuves. Hein? Et donc, qu'est-ce qu'ils ont appris? À prier et à jeûner. Cette communauté de Plymouth a été fondée dans le jeûne, la prière et la foi. Les vrais chrétiens, les chrétiens qui veulent vraiment durer, sont travaillés dans les épreuves par Dieu. Rappelez-vous, David a pu combattre Goliath parce qu'il était rejeté de son père, il était considéré comme un imbus, un petit monsieur de rien du tout, et il le faisait garder les moutons. Mais les ours et les lions venaient attaquer les moutons. Et il a dû apprendre à combattre l'ours et le lion tout seul. C'était donc dans le silence et la solitude, et dans le recours à Dieu, que David a été forgé comme un futur serviteur de Dieu, qui a pu affronter Goliath. Et les autres n'osaient pas y aller. Sans armure, avec quelques petits cailloux. Le chrétien d'aujourd'hui, le chrétien d'aujourd'hui dans nos sociétés, qui résistera aux années à venir, est celui qui est forgé de cette manière-là. Et regardez, c'est le profil même de la vie de Jésus. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » La tentation de la facilité, hein, de tout, c'est, tout est magique. Hein. Jésus répondit, il écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Vous savez, chaque fois qu'on est préoccupé, j'analysais ça pour moi, mes crises d'arthrose et tout ça, ben ça fait tout un temps que j'étais fort préoccupé, sur faire mes visites, quelques réunions, et puis lire ma Bible. Mais à un moment donné, le travail du jardin me prenait tellement, le travail de la maison aussi, que c'était quand même dans ma tête la première chose. Même si les autres étaient là, les autres choses, j'avais inversé. Quand une crise d'arthrose m'arrive comme ça, moi je sais, parce que c'est l'expérience que j'ai eue il y a de nombreuses années, c'est Dieu qui met un arrêt. Remets les choses à leur place, remets l'essentiel devant. L'essentiel, c'est moi qui te parle. L'essentiel, c'est moi qui te parle. Après le boulot, après les tâches ménagères, après les tâches du jardin, après les préoccupations, etc. Ça, c'est secondaire. C'est moi le plus important. Et chaque fois que j'ai eu ça, quand j'ai fait l'Institut biblique, j'avais beaucoup de crises d'arthrose dans la tête. Et je rencontre une chrétienne qui avait ça depuis 23-24 ans. Moi, je l'avais depuis 3-4 ans. C'était infernal, parce que si je me couchais avec, je me levais au matin avec des maux dans les yeux, comme des aiguilles, et envie de vomir. Et si je prenais des aspirines, ça, apparemment ça passait, au bout d'un certain temps, ben, cette diarrhée et tout le reste, c'était impossible les aspirines. Donc j'étais confronté à une impossibilité. Et puis, cette personne avait ça depuis 23-24 ans, et moi je lui propose ceci, mais elle restait dans sa chambre parfois 4-5 jours dans le noir. Moi, il m'était arrivé de rester parfois dans la chambre dans le noir et de ne plus avoir sortir. On ne peut plus, maintenant on a mal, penser, prier. On est bloqué. Hein? Et je lui ai dit, écoute, on va prendre un engagement. Je venais de recevoir mon diplôme ou mon certificat, parce que je n'avais pas suivi les cours l'après-midi, l'Institut, je n'avais pas le temps, il fallait que j'aille travailler. Et alors pratiquement, j'avais pas eu mon diplôme, il manquait quelques cours, comme l'anglais, etc., l'hébreu, j'en avais fait avant, mon séminaire. Alors pratiquement ce qui se passe, ça a été fini, j'avais eu ce diplôme, un certain certificat pour moi, pratiquement ce qui se passe, je parle avec cette chrétienne et je réalise qu'elle est fort accablée. Je dis, je vais prier pour toi, s'il te plaît, prie pour moi. Une semaine après, c'était fini. Mes crises, c'était fini. Je n'ai eu une crise ou deux d'arthrose dans ma tête, mais ça va devenir fou, je vous le dis. que chaque fois, j'avais mis Dieu en cinquième place. Et j'ai compris. Ça doit cesser. C'est une composante de ma nature de vouloir marcher par ses propres forces et, par ses propres, et pour ses propres besoins. Il faut d'abord marcher pour Dieu, avec Dieu, et après, les autres choses. Et donc, je me suis bien fait avoir, puisque deux jours, ça m'a repris. Et c'est évident que Dieu peut mettre son doigt pour nous arrêter. Chez les chrétiens, enfants de Dieu, Dieu arrête quand il faut. Parce qu'il est un père qui aime ses enfants, et il sait punir, il sait arrêter quelqu'un. Parce qu'il faut le corriger. C'est dans l'Épître aux Hébreux, c'est dans Ésaïe. Donc, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sommes-nous persuadés de cela? Parce que Jésus le dit à cet importun qui arrive, qui a peut-être une forme humaine, c'est Satan. Mais cet importun vient nous dire aussi à nous, occupe-toi de ta bouffe, de ton salaire, occupe-toi de ton compte en banque, etc. Et c'est Satan. Et Jésus a dit, on ne peut pas avoir deux maîtres. Ou Mammon, ou lui, le Seigneur. Et puis il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, le reste vous sera donné par surcroît. Il a un. Pourquoi vous inquiétez-vous? Regardez les oiseaux, ils ont mangé. Regardez la lys des champs, ils sont habillés, ils sont plus glorieux que Salomon. Donc, pratiquement, Dieu a mis les choses en place pour ses enfants, et le premier de celui qui se manifeste comme enfant de Dieu, c'est Jésus. Le voilà. C'est lui qui nous montre le chemin. Et pratiquement, ce chemin est tracé. Comment? Par l'Esprit Saint qui est en Jésus. Donc, quand ce chemin en Jésus est tracé par Jésus, ce chemin est toujours valable au nom de l'Esprit Saint aujourd'hui pour nous. Pour nous, il est valable aujourd'hui. C'est l'Esprit Saint qui doit nous le rappeler. Puisque visiblement, Jésus n'est pas présent visiblement. Il est là. Le Saint-Esprit doit nous enseigner tout ce que Jésus nous a enseigné, doit nous rappeler tout ce qu'il nous a dit. Et ça, c'est une des premières conditions. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et donc, Dieu agit aujourd'hui par l'Esprit Saint, le même Esprit Saint qui s'est manifesté dans la parole de Jésus à Satan, le même Esprit Saint qui conduisait dans la sainteté Jésus, dans le désert. Maintenant, regardons. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, et ça, le diable, c'est un archange déchu. Dans Ézéchiel 28, le texte faisait référence tout à l'heure Vincent, c'est Ézéchiel 28, c'est un archange qui avait comme privilège de garder l'endroit, le lieu de l'assemblée, qui aura lieu, Ésaïe 25, hein, les noces de Cana préfigurent cela, ce lieu de l'assemblée, ce lieu de Dieu, où toutes les nations seront réunies dans la gloire et dans l'Esprit Saint et dans la puissance de la vie, de la résurrection. C'est ce lieu du temple, où il y a la mosquée pour le moment. Et puis, pratiquement, Satan, qui a été déchu, qui a été jeté dans la poussière, parce qu'il voulait s'égaler à Dieu et être au-dessus de Dieu à cet endroit-là, et il ne voulait pas que Christ y vienne, il vient de nouveau à l'attaque et il dit « Non, Jésus, non. » On va faire en sorte que ce soit moi le maître. Toi, tu veux faire le rigolo. Va faire le superstar. Va faire le champion des Jeux Olympiques. Va faire... cherche la gloire des hommes. Mais pas la gloire de Dieu. Moi, je veux cette gloire pour moi. Cette gloire qui ne t'est réservée qu'à toi, c'est à moi que je la veux. Satan, c'est le dieu de la jalousie. C'est le dieu de l'imposture. C'est le dieu qui veut la gloire que Dieu a destinée à son fils, il la veut pour lui. Aujourd'hui, Satan est toujours jaloux. C'est le dieu de la jalousie. Tout ce qui diminue l'importance de Jésus vient de Satan. Et dans la première épître de Jean, tous les antéchrists ont nié le Fils. Celui qui nie le Fils nie Dieu. Et Jean, l'apôtre Jean dit, ils sont sortis de parmi nous. Vous imaginez. Alors, ce que ça veut dire? Pratiquement, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il prend un verset du psaume 91, 91, pour séduire Jésus, pour le tromper. Alors que c'est simplement un verset qui dit que les anges vont ouvrir le tombeau à la résurrection pour qu'ils sortent. La pierre ne retienne pas. Et juste le verset après, dans le psaume 91, on voit qu'il ne marche pas sur le lion, l'aspect du dragon, etc. Donc l'échec de Satan. Que veut faire ici Satan? C'est prendre la gloire de Christ et se l'approprier et refuser son propre échec. Il refuse sa propre condamnation, qui est déjà décidée par Dieu. Satan se sait. Satan est dans le tourment. Satan est toujours en rébellion, c'est le prince en rébellion. Mais il sait qu'il est condamné. Dans le ministère, il m'est arrivé, au début, je dis franchement, au secours Seigneur, je ne suis pas prêt. Mais par la suite, dans les années, il m'est arrivé d'être devant des quatre possessions. Seigneur, Seigneur Jésus, je sais que tu as déjà gagné sur Satan. Aujourd'hui, je te demande de libérer cet homme ou cette femme. Et puis tout d'un coup, la crise était finie. C'est clair. Mais ce qu'il y a, c'est parce que je suis pleinement convaincu et je parle à Jésus, même là, ici présent. Et je lui dis, Seigneur, je sais que tu as victoire sur Satan. Je sais qu'il est vaincu. Il n'a aucune autorité, il ne fait que du bluff. Je ne lui laisse aucune illusion, je suis avec toi, Seigneur Jésus. Je te le demande pour cette femme ou cet homme. Délivre-le, délivre-la. C'est comme ça que j'ai vu, mais c'est parce que c'était dans une foi sans faille, où je sais que Jésus est là. Et qu'il est ce Jésus-là de la Bible, pas un autre. Alors, vous voyez ici que Jésus répond, « Tu ne tenteras point, Seigneur ton Dieu. » Donc Jésus se définit comme Dieu. Tant pis pour les témoins de Jéhovah. Il se définit comme Dieu. Il se définit comme Dieu venu sur terre, confronter le royaume du malin, confronter la puissance du malin, destructrice qui ruine les hommes, qui ruine leur cœur, leur âme, et qui les emmène en enfer. Il va au combat pour sauver l'humanité du prince des ténèbres. Et Satan a vu que l'autre en face de lui avait complètement confiance dans le Père des cieux, que le Saint-Esprit était là puissamment et qu'il n'y avait rien, pas de concession, pas de concession. Dans Jésus, il n'y a pas de concession pour Satan. Dans Jean, dans Matthieu chapitre 8, verset 29, hein, les Gadaréniens qui sont dans les tombeaux, qui cassent les chaînes, qui sont furieux, verset chapitre 8, Matthieu 8, 29, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous? Et toi, fils de Dieu, es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Nous tourmenter avant le temps? Ben, le temps de la condamnation, à jamais dans les temps de feu et de soufre. Toute présence d'un vrai chrétien sur terre, d'une vraie chrétienne, est un tourment pour Satan. C'est quelqu'un qui l'empêche de tourner en rond. Et bien sûr, s'il est tourmenté, il ne va pas le laisser tranquille, le chrétien, la chrétienne. Dans la mesure où Dieu le permet, il ne pourra pas faire plus que ce que Dieu ne lui laisse faire. Comme avec Job. Ça, il faut le savoir. C'est pour ça que le chrétien peut dire, Seigneur, dans la mesure où cette épreuve m'est salutaire, mais bénéfique pour moi, l'amélioration de ma vie, pour le perfectionnement de ma vie chrétienne, Seigneur, je l'accepte, je te rends grâce. Seigneur, cette épreuve est trop forte pour moi, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi du malin, notre Père. Ne me laisse pas sous la puissance du tentateur, ne nous induis pas en tentation. Il est clair que nous pouvons parler clairement avec le Seigneur, et que, sachant nos limites, en tout cas, il n'y a pas d'épreuve qui ne soit au-delà de nos forces, dit la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne permet pas qu'un enfant de Dieu soit tiraillé au-delà des forces qu'il a, ou des forces que Dieu met avec lui. Évidemment, ce n'est pas pour ça qu'un chrétien n'aura pas d'épreuve, parce que l'épreuve nous amène à une meilleure obéissance, à une foi plus profonde. L'épreuve nous amène à une meilleure relation avec le Saint-Esprit. Une meilleure obéissance. Et c'est pour ça que dans les épîtres de Pierre, heureux celui qui souffre, car l'Esprit de gloire est sur lui. L'Esprit de gloire est sur celui qui souffre en mon nom. Donc, vous voyez que quand Jésus est dans le désert et que 40 jours de jeûne, c'est une souffrance, 40 jours de jeûne, vous savez, C'est une souffrance. Le jeûne n'est pas facile. Eh bien, c'est, ça préfigure toutes les souffrances que Jésus est capable d'endurer et de supporter pour nous sauver, pour nous garder même après quand nous sommes sauvés. Jésus est capable d'endurer tout pour nous garder, nous sanctifier. Ça, c'est important de le savoir. C'est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, rebelote, il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Tout ce que nous trouvons dans Isaïe, chapitre 60 à 66, où toutes les nations sont réunies à Jérusalem, et Isaïe 25, c'est là. C'est tout ce qui va arriver à la fin de l'histoire, tous ces royaumes, toute cette gloire réunie. Et quoi? Pour l'Antichrist. Oui, ce suppôt de Satan, qui est le Satan déguisé. C'est ça qu'il veut, lui. Et il monte à Jésus, mets-toi à mes genoux, je te donnerai des gloires, des basses gloires. Le fric, la guerre, la corruption, le sexe. Mais Jésus n'est pas... il est saint, il n'est pas dans le péché, lui. Il n'a pas besoin de ces cadeaux-là, de ces gloires-là. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Tu perds ton temps, mon petit pote. Il lui dit, retire-toi, Satan. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et le diable l'est ça. Vous voyez que la puissance du Saint-Esprit, quand on veut savoir ce que c'est et où elle est, il faut déjà la voir en Jésus. Et en Jésus, il y a une puissance phénoménale de l'activité du Saint-Esprit qui lui est donnée sans mesure. Pourquoi ? Sans mesure, parce qu'il est le Fils de Dieu et parce qu'il va la faire déborder sur nous. Si dans un vase, une tasse de café, je mets du café, je l'ai mesuré, ça ne déborde pas. Je bois, je ne renverse pas. Un grand vase, je mets des fleurs et de l'eau avec mesure. Mais si c'est sans mesure, ça coule tout le temps. Ça coule tout le temps. Une fontaine sans mesure, c'est pas un bac à moitié rempli, ça coule tout le temps. Or, avec Jésus, l'Esprit Saint a été donné sans mesure. Et pourquoi ? Parce que l'Esprit Saint est l'abondance de vie pour nous. Alors, nous allons regarder dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, vous savez que Jésus a dit ceci, Jean chapitre 7, verset 37. Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, donc c'est Pâques, hein, évidemment, c'est Pâques. C'est pas autre chose. C'est... Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Donc, rappelez-vous à Noce de Cana et Isaïe 25. Hein? Soif de vie. Rappelez-vous la Samaritaine. Soif de vie, de la vraie vie. « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Donc, de son sein, de son âme, de sa vie intérieure. Et celui qui croit en moi, dans Jean, le mot « croire », c'est « qui adhère en moi ». Une soudure profonde avec Jésus. C'est un mariage spirituel profond. Et regardez bien, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc, ça déborde tout le temps. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'avait pas encore été donné. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, si Jésus ne meurt pas sur la croix, si Jésus n'est pas ressuscité, si Jésus ne donne pas le Saint-Esprit, il n'y a pas de sauvé. Il n'y a pas de sauvé. Parce que le respect de la loi, la moralité, ne sauve pas. Le judaïsme traditionnel avec ses lois ne sauve pas. L'islam avec ses lois imposées ne peut donner que soit de l'orgueil, soit de l'angoisse, ou de l'inquiétude. Tout comme le judaïsme classique. Parce qu'il ne sauve pas. Il n'y a pas de salut promis. Certains. C'est fort important, les amis, de comprendre que Jésus est la vie. Alors, c'est un autre verset dans Jean où l'Esprit est sans mesure. Je ne l'ai pas sous la main comme ça. Je ne le trouve pas. Pourtant, je l'ai lu au matin. Je le retrouverai peut-être tout à l'heure, mais l'Esprit a été donné à Jésus sans limite. Si quelqu'un le trouve, il peut nous le lire. Donc, nous avons reçu un ordre, recevoir le Saint-Esprit. Deux, nous voyons où est le Saint-Esprit, en Christ, en Jésus, et pas autre part. Pas autre part. C'est pas possible. Matthieu 12, 18. Matthieu 12, 18. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en son nom. Donc, cette prophétie de Dieu, par la plume et la bouche d'Ésaïe, est reprise ici, dans Matthieu, par Jésus. Il se présente comme celui qui apporte la justice, c'est-à-dire le pardon des péchés et la sainteté aux nations. Et qui fait triompher la sainteté et l'obéissance, la vraie obéissance à Dieu. Comment ? Par le don du Saint-Esprit, évidemment. Et auparavant, par sa mort sur la croix, sa mort expiatoire. Et alors, refuser ce cadeau de Dieu, bien, ça a des conséquences incroyables. Dans Matthieu 12, verset 31, je vous le dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pas pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Donc quelqu'un qui s'oppose à Jésus, quelqu'un qui s'oppose à Christ pendant une partie de sa vie, même qui va l'insulter, qui va dire des choses, Jésus supporte. Parce qu'il sait à quel moment il va intervenir. Il est tout puissant. Il a déjà ramassé des clous dans les mains, il a déjà eu les épines sur la tête. Il n'est pas loup, il n'est pas incapable de supporter des outrages, des ignominies, même de gens qui se croient bien, ou de crapuleux. Mais ce qui, à un moment donné, quand Jésus commence à parler au cœur de cette personne, et qu'elle refuse le changement de sa vie, elle refuse de renoncer à son péché, elle refuse que Jésus la sauve. Là, elle blasphème contre le Père des cieux, qui a voulu lui donner le bien le suprême, c'est le don de la vie nouvelle, le don du Saint-Esprit. Le don de sa présence en la personne. Personne ne refuse, il n'y a pas d'autre solution que d'aller à la perdition pour tout le reste, pour l'éternité. Quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné ni dans ce siècle, dans l'époque à venir, l'époque présente, ou dans le siècle à venir, après le retour de Jésus. Il n'y a pas de possibilité. Ça veut dire que tout compte fait, moi je pense qu'il y a un moment donné où dans la vie, chacun est intercepté par Dieu. À un moment donné, intercepté par Dieu pour faire se prononcer et répondre à Dieu. Et dire, tu persistes dans ton péché, dans ton mal, ou tu y renonces. Tu veux aller vers la vérité, ou tu veux continuer dans le péché. Je pense qu'il y a une confrontation de Dieu qui se passe pour tout homme et toute femme, tôt ou tard dans sa vie. Très tôt pour certains, moyennement pour d'autres, tard pour d'autres, ça c'est pas nous décider. Dans le carnet de rendez-vous de Dieu. Je me rappelle bien pour deux jeunes femmes homosexuelles, je n'arrivais pas à ouvrir la Bible, et j'avais fait 180 km. Elles voulaient me voir, ben oui, ben, et puis elles ne veulent pas que j'ouvre la Bible, qu'est-ce que je fais? Il me vient tout d'un coup, parce que je suis convaincu de ce que je crois, je dis, est-ce que vous voulez qu'on va chez le dentiste, chez le rhumatologue, chez le cardiologue, on prend un rendez-vous? Est-ce que vous voulez, est-ce que je peux demander avec vous un rendez-vous à Dieu pour vous? Elles me disent oui. Je savais que j'avais gagné. Ben, je savais, c'est ma foi. Et je prie et elles disent amen. Trois jours après, il y en avait une qui se convertissait, qui me rappelle, j'y remonte, elle se convertissait. Pas plus qu'une demi-heure, c'était réglé. Et L'autre est venu 3-4 mois après, ici en voiture à Gomery, on s'est promené pendant 2-3 heures, on a pris ensemble. Et ils se sont arrêtés et se sont mariés, des enfants. Pratiquement, pratiquement. Je suis convaincu qu'il y a un rendez-vous. C'est pour ça que dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, il est dit de ne pas condamner, de ne pas juger. Pourquoi ? Parce que si nous condamnons quelqu'un, nous le jugeons, ça veut dire qu'il ben, ne sera jamais sauvé, celui-là ira en enfer, ou celle-là. Hein? Eh bien, c'est comme si on disait à Dieu, tu n'as pas le droit de le sauver. Ton rendez-vous dans ton carnet, tu peux le rayer. Moi, je n'en veux pas. Je prends autorité sur ce que Jésus a fait pour cet homme et cette femme. Je prends autorité sur ce que Dieu a déjà décidé de rencontrer la personne à un moment donné, de parler à sa conscience, à son âme. Je prends autorité pour dire, tu devras le faire, hein. C'est un peu, alors je suis comme les disciples. Veux-tu qu'on fasse descendre, qu'on prie le Père des cieux, qu'il tombe la foudre, le feu du ciel sur eux? Ben, Jésus a dit, arrière de moi. Jusqu'à quand vous supporterez, je serai sous courette au cœur incirconcis. C'est à cette occasion-là qu'il a dit ça à ses disciples. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa grâce, ne veut pas qu'un seul homme aille en enfer. Une seule femme. Le problème, c'est que nous n'avons pas à nous mettre en travers. Nous devons être plutôt favoriser les rendez-vous de Dieu. Favoriser l'œuvre de Dieu, aujourd'hui, partout où on est. Être un élément de plus qui est notre Dieu à agir dans la vie de telle et telle personne. Si on peut aider Dieu, parce que Dieu est Dieu tout de même, mais enfin, qu'il lui soit agréable, disons. C'est fort important de se rendre compte qu'il y a des choses... regardons Ésaïe 42, les choses prévues par Dieu depuis longtemps. L'histoire de Jésus qui sauve, qui est venu sur terre pendant 33 ans, 35 ans, n'est pas finie, elle continue aujourd'hui. Et souvent, quand on est chrétien, on se dit, ben, on attend qu'il revienne. Ben, il est toujours en train d'agir, les amis. C'est une vue de l'esprit qui est très dangereuse de dire, mais vivement qu'il revienne. Mais il est là. Parlez-lui. Ésaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera pas, il n'élèvera point la voix. C'est le texte que nous avons lu tout à l'heure, mais là, dans Ésaïe. Hein? Bon, maintenant, quand Jésus arrive, il démarre son ministère, après les 40 jours dans le désert où Satan a essayé de le cuisiner, qu'est-ce qui se passe? Jésus rentre dans la synagogue de Nazareth et il prend un texte. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir sa gloire. Nous avons tout le programme de notre vie chrétienne là. D'abord, en priorité pour Israël, mais pour l'Israël spirituel que nous sommes, avec l'Israël sauvé par le sang de Jésus, regardez bien. Le cœur brisé, oui. Nous avons besoin d'être guéris souvent de grandes souffrances, oui. Et si on n'a pas encore connu, attendez-vous à en avoir. On y passe tous. Le cœur brisé. Nous avons besoin d'être guéris. Comment ? Par notre Seigneur Jésus, qui a porté toutes nos meurtrissures à la croix. Confions-lui, déposons-les. Proclamer aux captifs la liberté. J'ai des péchés qui m'enchaînent, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Il y a des choses dans ma vie qui se reproduisent. Mais Seigneur Jésus, je t'invoque, je te demande de chasser Satan qui est en train de me tenter. Ou alors de dire carrément, arrière Satan, au nom de Jésus, arrière. Que toutes ces pensées impures qui viennent dans ma tête, arrière. C'est des pensées impures ou c'est des pensées de convoitise? Il me faut tout ce que je vois dans le magasin là. Il me faut tout ce qu'il y a dans le frigo là. Je veux manger tout, j'irai en racheter après. Ou essayez ça, tout le temps. Les convoitises sont des ennemis de notre corps et de notre âme, qui nous rendent esclaves du péché et qui nous détruisent. Eh bien, qu'est-ce qu'il est mis ? Il faut demander la liberté. Et la liberté, ça se demande à Jésus. Oh non, j'ai déjà fait des efforts, j'ai déjà essayé, j'y arrive pas. Mais est-ce que tu t'adresses vraiment à Jésus ? À lui, à lui. Vivant et ressuscité là, devant toi, dans le secret de ton cœur, de ta chambre, de ta voiture, de ton jardin. Aux prisonniers, la délivrance. J'ai des chaînes. Je suis tellement lié par des trucs du passé. Ça me revient tout le temps. Mais Seigneur, sors-moi de ça. J'ai eu 15 femmes dans ma vie avant d'être chrétien. Hein, où j'étais pédé, j'étais homosexuel. Seigneur, délivre-moi de ça, que je sorte, que ce ne soit plus ma prison dans laquelle j'étais. Seigneur, c'est fini. Au nom de Jésus, c'est fini. Arrière Satan. Je suis un chrétien libre et tes péchés que tu me proposes ne m'intéressent plus. Je veux obéir au Seigneur Jésus. C'est mon maître, ce n'est plus toi. Arrière Satan. Combien de fois dans notre vie il faut oser s'adresser à l'ennemi en disant que Jésus est mon maître et dans ma vie, et s'adresser à notre maître en disant « Seigneur, protège-moi ». Regarde, ça revient tout le temps. Il revient à l'attaque, il revient tout le temps. Chasse-le, Seigneur. Sois mon rempart, ma forteresse, mon asile, mon rocher. C'est ça la délivrance. Et publie une année de grâce, eh bien, il y a des gens qui s'étaient rendus dans le peuple juif esclaves. Ils avaient fait des mauvaises affaires. On avait vendu la maison, même femme et enfant, et lui était vendu. Il travaillait comme esclave. Mais tous les 7 ans et tous les 25 ans, le propriétaire de la maison et de ces personnes-là devaient les libérer. Il leur rendre tous les biens, ils les remettre en liberté et leur rendre leurs biens. C'était un cycle de 7 ans et de 25 ans. Ça s'est accompli en Israël jusqu'à l'époque de la destruction de Titus. Après, le judaïsme est tombé dans un autre travers. C'était une loi de base de la vie. Et on le trouve même avant le judaïsme. On le trouvait déjà dans les règles de la civilisation de Babylone. On trouvait ça, une régulation de la société. Pour qu'il n'y ait pas des tout riches et des tout pauvres qui restent de génération en génération, il y avait une régulation sociale qui se faisait. Avec ces règles-là, déjà avant le judaïsme. Mais avec la disparition du judaïsme en Palestine, avec Titus, il rase tout, il déporte tout le monde, cette structure sociale est disparue. Et en plus, sous l'influence du pape, des évêques catholiques, on a voulu punir les juifs, c'est eux qui ont tué Jésus, etc. Hein, c'est facile ça, de dire ça, parce qu'on n'a pas lu la Bible, alors... Il faut toujours porter, il y a un petit canard noir à trouver. L'antisémitisme est né comme ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on a dit, ils ne feront pas les métiers sacrés. Les métiers sacrés, c'est la culture, la terre. Jamais ils feront ça. Ils ne peuvent faire les métiers maudits. L'argent, les arts, le théâtre, la musique. C'était les arts du péché, si vous voulez. Et donc, le catholicisme a chassé le judaïsme dans l'argent et les arts. Eh bien, aujourd'hui, c'est ça. Le pognon est dans les mains du judaïsme. 45, 2015, en 60 ans, pan ! En 70 ans, le judaïsme presque détruit est repris les mains sur les frics du monde. Mais pourquoi ? C'est qui est-ce qui a poussé ça ? Des faux chrétiens, un faux christianisme, qui avait la haine, qui a maudit les juifs. Ils sont dans les arts, dans les lettres, dans les concerts, ils sont chefs d'orchestre, ils sont ci et ça. Qu'est-ce qui les a poussés là ? Le catholicisme, l'antisémitisme, qui en a même chez les protestants des antisémites. Malheureusement. Mais ce n'était pas Dieu. Il y avait une régulation sociale dans le judaïsme exemplaire. Et l'année de la délivrance, les prisonniers... Tous ceux qui avaient échoué socialement, économiquement, retrouvaient leurs biens. Donc quelqu'un n'était pas fauché pour tout le reste de sa vie, ou privé de maison pour le reste de sa vie. tous les 7 ans et tous les 25 ans, remise à niveau. Alors, pour laisser croire qu'ils sont meilleurs, les francs-maçons, quand il y en a un qui se casse la figure, ils l'aident à deux ou trois fois à reprise. Ils le renflouent, ils le remontent, pour laisser croire qu'ils sont vraiment la race élue. Entre eux seulement. Hein. Ils sont prisonniers du diable pendant ce temps-là. Il faut bien leur laisser quelques illusions. Du diable. Pas venu de Dieu. Une apparente justice. Alors, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, donc aux Juifs, un diadème au lieu de la cendre. Ben oui, la cendre d'Hitler, avec les Simillons au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil, etc. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Vous voyez en Jésus une libération d'Israël de tous ses péchés et une libération, une œuvre de justice immense. Et elle s'étend aux étrangers. Verset 5, regardez bien, chapitre 61, verset 5. Des étrangers seront là, feront paître vos troupeaux, et des fils étrangers seront vos laboureurs, vos vignerons, etc. Vous pouvez lire tout le reste du chapitre. Il y a une intervention de l'Esprit-Saint sur la vie d'Israël. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 4, et puis on va arrêter. Première épître de Pierre, chapitre 4. Verset 12 et suivant. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Vous savez ce que c'est qu'une fournaise? Soit, c'était comme au temps de Daniel, quand on les a jetés dans la fournaise, c'était du pétrole qui brûlait, comme une grosse chaudière. Hein, parce que là, on trouve le pétrole comme rien là-bas. Creusé un mètre ou deux dans le sol, on trouvait du pétrole à l'époque de Daniel et on faisait les ziggourats et tout ça, et les temples avec ça. On mélangeait ça à du sable pour faire le lien entre les briques. Mais pratiquement, il y a la fournaise du désert. Moi j'ai vu le désert de Judée, de Jérusalem et Jéricho, c'est une vraie fournaise. Vous êtes là-dedans sans avoir à boire, vous ne pouvez pas arriver à Jéricho. Pas possible. C'est une fournaise. D'immenses déserts dans le monde sont des fournaises. 55, 60, 65 degrés. Hein? Et puis la nuit, il gèle. Il gèle. Alors imaginez dans quel état vous êtes. Hein? Alors, la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Donc les chrétiens ont connu des épreuves horribles à l'époque du christianisme naissant. Et actuellement, dans beaucoup de pays, un tas de nouveaux chrétiens connaissent cela. Réjouissez-vous au contraire. Donc ne pas être surpris, verset 13, ensuite, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. On a eu la visite ici d'un couple allemand qui avait été en prison, chrétien, l'Allemagne de l'Est, à l'époque encore du régime communiste. Mais ils nous ont confié, il était ingénieur, il participait à des manifestations pour la paix, pour détruire le mur de Berlin. On l'a dégradé, on l'a mis contremaître, il a continué, on l'a mis ouvrier, il a continué avec sa femme, on l'a mis manœuvre, puis après, dehors, plus de travail. Puis il continuait, on l'a mis en prison. Alors je dis, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Quel a été le moment le plus beau de votre vie? Ils ont été rachetés, avec toutes sortes de prisonniers, par les Américains, et ils sont venus à l'ouest, avant que le mur soit battu. Eh bien, la période la plus belle de leur vie, où ils étaient vraiment en paix, c'est quand ils étaient en prison, et elle à la maison, elle n'avait plus à manger avec ses gosses. Ils ont dit, c'est là que nous avons appris ce que c'était la paix de Jésus. Et nous avons vu ce que c'était, que ça les avait rendus forts. Parce que, lors de cette visite, nous avons été à Bettembourg, avec nos enfants, les quatre premiers. Il y avait des centaines d'enfants. Ma femme va à la toilette, et moi je tenais deux enfants. Et il y en avait un ou deux sur les petits trains électriques là, qui font le tour dans les arches. Et pratiquement, Bénédicte m'échappe des mains sans que je ne m'en rende compte. Quand ma femme arrive, elle ne voit pas Bénédicte. Elle me demande où est Bénédicte. Je dis, ben, elle est là. Je me retourne, elle n'était pas dans ma main. Et alors, Marie-Hélène, les fusils pètent, hein. Elle était quoi autour. Et pratiquement, ce qui se passe devant tout le monde. Et puis moi, j'étais là comme ça, bon, en train sous l'avalanche. Hein. Et puis, les deux, je me rappelle, les deux se regardent et ils nous disent, venez, venez vous asseoir. On va s'asseoir. Et il prie en allemand, mais enfin, je comprenais, je pouvais traduire. Et alors, après, ils ont dit, le bonhomme a dit, moi je reste avec vous, je continue à prier avec vous, et ma femme va partir. Elle sait où elle doit aller. Elle est repartie, elle était en ligne droite, elle est revenue avec Bénédicte. Et quand elle avait fini de prier, elle savait qu'elle était de l'autre côté de la grande route, hors de la propriété du parc merveilleux, sur le parking en face, de l'autre côté de la grande route, en train d'attendre à côté de l'auto. Elle nous l'a ramenée. Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, cette femme? Pourquoi est-ce que ce mari était comme ça? Parce qu'ils ont été conduits par Dieu dans les épreuves, dans la fournaise. Dans la fournaise, dans les épreuves, ils n'avaient plus que Dieu. Ils ont été conduits par Dieu. Ils ont appris à perdre toutes les autres assurances, tous les autres points de repère. C'est leur seul point de repère. Et quand ils le prient, ce point de repère est vivant. Ce n'est pas une borne géodésique pour l'avion. Du côté de chez Jackie, il y en a une quand je travaille au champ. On voit les avions. Ils vont en ligne droite et puis de l'autre côté, ils bifurquent ou ils retournent ou ils partent à gauche, à droite. Parce qu'il y a un émetteur, il y a un grand poteau, si vous voulez, et tous les avions vont vers ça. Puis il y en a un autre du côté, au sud, du côté de Thionville, on voit les avions, on est dans le champ, on les voit et tout d'un coup, ils changent. Et dernièrement, j'en ai vu un, il faisait demi-tour, il repartait. Imaginez que ces bornes sont importantes. Très importantes. Sans ça, les avions, c'est la bagaille, hein. Tel avion arrive à Luxembourg qui ne devait pas y arriver, un autre qui devait arriver là n'y arrive pas, il est à Paris ou à Copenhague, vous imaginez le bazar. Alors, pratiquement, pour un chrétien qui ne travaille pas avec la bande géodésique, qui ne vit pas avec Jésus, mais c'est un égaré. Il ira voir le psychiatre, le psychologue, ou il ira voir son banquier, il ira voir tata, tonton et tout le reste pour avoir des conseils de tout le monde. Ou il va venir dire au pasteur, priez pour que j'ai une délivrance. Mais ce n'est pas une question de délivrance. Il n'y a pas besoin d'être délivré de quelque chose dont on est responsable. On se conduit comme un chrétien, un faux chrétien. C'est-à-dire, si je suis chrétien, je vis avec Christ. Avec Christ. Évitons les malentendus. Et donc, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de me mettre en communion avec Jésus. C'est d'être avec, attaché. Alors, regardez. Premier épître de Pierre, chapitre 4. Verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie, dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Mais est-ce que vous imaginez, dans le désert, Jésus était couvert de l'Esprit de gloire. Et Satan osait venir tourner alentour de lui et essayer de le tenter. Alors, il va essayer avec nous. On n'est quand même pas au même niveau que Jésus, nous. Mais, Pierre, qui a subi des grandes tentations et des grands échecs, et qui a vu l'œuvre de l'Esprit-Saint, qui a vu la fidélité de Dieu, il dit, l'Esprit de Dieu repose sur vous. S'il repose sur nous, comment Satan pourrait-il nous perturber? Si Satan nous perturbe, c'est que nous avons un problème de relation avec Dieu le Christ. Alors il faut changer quelque chose. C'est ça la repentance, la nécessaire repentance dans la vie chrétienne. Il faut que je change des choses dans ma vie pour vraiment être dirigé par Christ. Que nul de vous en effet ne souffre comme un meurtrier ou voleur ou malfaiteur, comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ceux. Non. Donc, je souffre à cause que je suis chrétien, Seigneur, je t'en rends gloire. Merci. Ok? C'est important. Verset 19. Que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Je remets mon âme tous les jours au Seigneur. Et quand je ne le fais pas, je ramasse des baffes de l'autre. Ça se résume comme ça. Je ne suis pas plus malin que vous. Et ce n'est pas en vieillissant qu'on s'améliore. On refait toujours les mêmes bêtises, les mêmes égarements. On a toujours besoin des mêmes leçons. Ok ? Alors, je vous dis que l'Esprit Saint de gloire, repose sur nous pour la semaine. Nous sommes de petits enfants et je comprends que Jésus ait dit à des hommes, hein, ils avaient péché dans Jean 21, ils ne trouvaient pas de poisson. Mes petits enfants, ils les appellent les petits enfants. Parce qu'il n'y a pas de grands hommes devant Jésus. On est tous des petits enfants. C'est-à-dire qu'on a tous besoin d'être conduits. Et l'Esprit Saint de Jésus est une richesse qu'il ne faut pas mépriser. Dans Éphésiens, Paul dit « Ne n'attristez pas le Saint-Esprit. Ne le mettez pas au rancard, au placard. » Et en lui faisant jouer un rôle secondaire, donnez-lui le rôle essentiel. Premier moteur. On va revenir à tout ça dimanche prochain. Seigneur, mon Dieu, nous sommes heureux d'entendre ce que tu nous dis. Nous sommes heureux de savoir que nous avons un trésor, un privilège exquis, irremplaçable, qui ne s'achète pas. C'est toi qui nous l'as donné gratuitement. Par ton Saint-Esprit, Seigneur, nous pouvons être conduits. Par ton Saint-Esprit, nous pouvons être consolés. Par ton Saint-Esprit, nous recevons toutes les aides nécessaires à notre faiblesse. Par ton Saint-Esprit, nous pouvons être corrigés dans nos péchés. Par ton Saint-Esprit, nous pouvons être conduits jusqu'à la gloire finale, au banquet final. Aussi, nous te rendons gloire. À toi toute la gloire, à toi tout l'honneur, la puissance, pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.